Dieu qui est un ami. Alors c'est un thème, j'aime bien ce thème parce que d'un côté on comprend en général assez bien ce que ça signifie d'être un ami ou d'avoir des amis. Je pense ou j'espère que vous avez tous des amis. Et d'un autre côté, l'amitié que Dieu nous propose va, je dirais, va bien au-delà que ce qu'on peut attendre d'un ami humain. Et on le verra aussi ce matin à travers le texte biblique que nous lirons ensemble. Dieu ami, c'est aussi une relation d'intimité profonde. On est parti dans ces sept messages du Dieu grand, du Dieu très grand. Et aujourd'hui, nous allons voir qu'il est un ami, donc quelqu'un de très proche. C'est ça avec Dieu. Autant il est très loin, quasiment inaccessible, et il est inaccessible. On n'arrive pas à être en présence de Dieu et vivre même. C'est un être, je ne sais pas si vous parlez d'un être, il a toujours été. Il n'a pas été créé, qui est très loin, très grand. Et ce matin, nous allons parler d'une relation d'amis. Donc on est au niveau, j'ai envie de dire, le plus intime de la relation qu'on peut avoir aussi avec Dieu. Et le but de mon message, c'est qu'on puisse comprendre et ensemble comprendre et retenir et le vivre, que toutes les qualités d'un ami humain, on va les voir aussi ce matin, fidèle, confident, tout ce qu'on peut attendre d'un ami. Ben que l'amitié de Dieu implique aussi un engagement de notre part, un don de notre vie, nous sera dit dans le texte. Et puis que être ses amis finalement signifie faire ce qu'il nous commande, soit de nous aimer les uns les autres. Alors le texte qu'on va lire ce matin, c'est un texte que il a certainement déjà été lu. Il est même, je suis encore allé voir sur le site du CEP de l'Héritage. C'est même un des textes qui est la base du nom de la vigne, cep de l'héritage. C'est le texte du cep et des sarments. On va lire dans Jean 15, les versets 1 à 17. C'est un texte très riche. On va le lire en entier. Mais mon message va se focaliser essentiellement sur la deuxième partie où il est parlé que Jésus nous appelle ses amis dans les derniers versets. Donc Jean 15, les versets 1 à 17. C'est moi qui suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son seigneur. Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Quelques mots du contexte de ce livre. Donc, on est ici dans l'évangile de Jean. L'apôtre Jean, Il est écrit à un endroit que c'est le disciple que Jésus aimait. J'ai toujours trouvé un peu bizarre cette précision dans la Bible. Vous ne trouvez pas, bon? Disciple que Jésus aimait. Pourquoi c'est mentionné? Est-ce qu'il y a un peu de favoritisme? Il aimait celui-là et pas les autres? C'est précisé ça. Je pense qu'on peut l'interpréter à différentes manières. Mais ici, je l'interprète que si cette précision, je pense aussi que c'est Jean, l'évangéliste Jean, qui a peut-être le mieux compris l'amour de Jésus. Et il a pu dire, ben, vraiment, Jésus m'aimait. Je sais que Jésus m'aime. Les autres aussi, mais voilà. J'ai une fois une personne qui me disait, elle n'aimait pas tout le monde, tous les chrétiens. Elle me dit, mais Jésus aussi avait ses préférés. Il avait aussi Jean qui préférait. J'ai dit, oh, bon, c'est une interprétation ou c'est une justification pour dire finalement, et c'est vrai, on ne peut pas aimer tous de la même qualité peut-être aussi et de du même amour que Jésus. Nous sommes ici donc dans ce quatrième évangile qui est toujours un peu différent. On a les trois autres évangiles qu'on appelle l'évangile synoptique. Et puis c'est l'évangile que l'on symbolise par l'image de l'aigle, comme vous le voyez sur le slide. Pourquoi par l'aigle? Parce que Jean, c'est celui qui prend de la hauteur hein, dans son livre. C'est peut-être celui qui a pris le plus de hauteur dès le début, lorsqu'il dit que la parole a été faite chair, la parole était dès le commencement. Donc il prend une position assez reculée par rapport aussi aux événements qu'il y a eu. Et puis dans l'Antiquité, l'aigle était considéré comme étant le seul animal capable de regarder le soleil en face. Et puis Jean, comme l'aigle, on peut dire, semble avoir capté aussi la pensée de Dieu et aussi donc la divinité de Jésus comme nul autre. Et c'est aussi dans cet évangile qu'on comprend, qu'on révèle aussi le mieux le caractère intime de Jésus. L'évangile de Jean a des textes qui ne sont pas dans les autres évangiles, et notamment celui-là. Donc vous trouverez le texte du cep et des sarments que dans l'évangile de Jean. Il y a comme ça quelques textes qu'on trouve que là, alors que souvent beaucoup d'autres textes, on les trouve dans les trois évangiles, mais l'évangile de Jean comporte plusieurs textes qu'on ne trouve pas. Et inversement, il y a aussi des textes qu'on trouve dans les trois évangiles qu'on ne trouve pas non plus dans l'évangile de Jean. Et je rappelle ici qu'on est au niveau chronologique. Jean, lorsque le texte a été écrit, on se trouve dans les derniers jours qui précèdent la Pâque et la mort de Jésus. C'est un moment vraiment important où Jésus donne ses dernières instructions à ses disciples. Et vous aurez remarqué que le texte qu'on a lu, c'est un monologue de Jésus. Ceux qui ont des Bibles où les paroles de Jésus sont marquées en rouge. Donc ici, c'est en rouge, hein, c'est tout le long, c'est les paroles que Jésus a dites. Donc il ne fait que de rapporter ses paroles, Jean. Et puis, je le vois comme l'importance de l'enseignement, la profondeur du message de Jésus rendrait un ajout ou un commentaire de l'auteur du livre superflu. Quel enseignement on peut tirer? On a fait ça aussi dans notre groupe enseignement qui a travaillé sur ces messages. On a essayé de se dire ben, qu'est-ce que du texte qu'on lit, quels sont 3-4 points qu'on peut retirer de ce texte pour nous aujourd'hui. Et ce qui m'a parlé, le premier point, c'est l'insistance sur le verbe « demeurer » dans ce texte. Je pense que c'est le verbe, on dirait presque aujourd'hui, si on fait une composition, on aurait presque la remarque du prof « répétition ». Un peu, hein, on utilise tout le temps le mot « demeurer », on ne pourrait pas mettre un autre verbe. Donc c'est le verbe « demeurer » qui a été mis. Donc je vois vraiment ici « demeurer », donc soit nous qui demeurons en lui, lui qui demeure en nous. Et ce terme grec utilisé ici se retrouve 117 fois dans le Nouveau Testament et est traduit généralement par « demeurer », comme ici, ou « rester ». Mais ce qui est intéressant, parfois, il est aussi traduit par « subsister ». Dans le verset « travailler non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu lui-même, a marqué de son empreinte » dans Jean 6, 27. Ou bien dans un autre passage, ce même terme grec est traduit par « s'arrêter ». Et c'est intéressant, dans le texte, « j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui ». C'était au baptême de Jésus. Hein. C'est le même terme qui est utilisé ici pour « demeurer » dans Jean 1, verset 32. Je vois ici comme une insistance de Jésus de rester hein, en lui, dans son amour, dans sa joie, dans sa présence, à rester attaché à lui comme les sarments et le cep, comme la photo. Et c'est une photo de la vigne, hein. C'est pas une photo que j'ai prise sur Internet. Vous aurez peut-être reconnu. Qui a cueilli cette grappe là? Ouais, puis l'encre un peu trop verte. Hein. Il y en a qu'une ou deux. Ouais, celle-là, il ne fallait pas la prendre, je crois. Hein. Ah ouais, ça. Voilà, donc c'est une photo qui vient du cep de l'héritage. Tu la reconnais, ouais. Ah oui, d'accord. Hein. Ah, moi, ça, je ne savais pas. Moi, je suis agronome, mais plutôt production animale. Je savais qu'on donnait des noms aux vaches, mais je ne savais pas qu'on donnait aussi des noms à la vigne, au cep aussi. Quoi. Donc, c'est incroyable, ouais, c'est dingue. Et je pense que si Jésus insiste ici, c'est qu'il a sans doute, il sait sans doute la tendance de l'homme de s'éloigner de lui. Hein, comme si on devait toujours, on voulait faire seul finalement, se débrouiller seul, vivre indépendamment sans être connecté à cette vie qui provient du cep, donc de Jésus, et qui nourrit les sarments que nous sommes. Et ces fruits dépendent vraiment de notre connexion à lui, de demeurer, et à Jésus qui prépare les œuvres et influe son esprit, la sève, dans nos sarments. Ceux qui ont travaillé dans la vigne ont vu ce que, voilà, on a taillé, on a gardé une bonne branche à fruits, on a préparé une réserve pour l'année prochaine, hein, une petite branche qui est pour l'instant encore comme ça, un peu plus maintenant, mais on les prépare pour l'année suivante, et c'est déterminant, ça paraît évident, mais une bonne branche à fruits, ben, elle se prépare, et puis elle est possible finalement de porter du fruit que s'il y a une connexion avec le cep, sinon il n'y a pas de fruit. Alors, je ne vais pas aller plus loin dans cette première partie du texte. On peut encore dire beaucoup de choses sur cette notion de demeurer. Mais je vais surtout passer dans la deuxième partie du texte où il est parlé aussi de cette notion d'ami qui arrive en deuxième partie du texte. Donc, venons-en maintenant à un autre point qui concerne ce point de Dieu comme ami. Le premier point, c'est le choix de Jésus de nous appeler ses amis. Donc l'initiative de cette amitié, elle est clairement du côté de Jésus. On l'a lu, hein, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et on l'a vu quand il a appelé ses disciples, il les a choisis. Ce n'est pas la seule fois que Dieu, ici par la bouche de Jésus, appelle des hommes ses amis. Il y a par exemple Abraham. Abraham a été appelé ami de Dieu. Je lis dans Jacques, qui le reprend, Jacques 2, verset 23, « Ainsi s'est accompli ce que dit l'Écriture. Abraham eut confiance en Dieu, et cela lui fut compté comme justice, et il a été appelé ami de Dieu. » Ou encore Moïse a aussi été, on parle aussi que ça a été l'ami de Dieu. « L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. » Dans Exode 33, verset 11. Et dans les évangiles, il y a aussi quelques autres passages qui, autres que celui qu'on vient de lire, où Jésus s'adresse à ceux qui sont proches de lui et leur dit « mon ami ». Il y a par exemple le cas où ses amis apportent le paralytique sur son lit et puis ils font le trou dans vous connaissez l'histoire, hein. Ils n'arrivent pas à accéder à Jésus, donc ils font un trou dans le toit, ils le descendent. Et puis là, Jésus leur dit « voyant leur foi, Jésus dit « mon ami, tes péchés te sont pardonnés ». On voit aussi les contradicteurs, hein, les pharisiens, docteurs de la loi, ont aussi considéré qu'il était devenu l'ami des pécheurs. Ce n'est pas lui-même qui l'a dit, hein, il n'y a pas un passage où il a dit que Jésus s'est adressé aux pécheurs en disant « mon ami », bien que voilà, ces gens qui sont venus aussi avec le paralytique, c'était aussi des pécheurs. Mais là, ici, les passages qu'on utilise souvent pour dire que c'est l'ami des pécheurs, c'est en fait une citation de Jésus qui dit « Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et vous dites, » donc il s'adresse aux pharisiens, « c'est un glouton et un buveur, un ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs. » Donc ils voyaient en lui quelque chose, on n'a que des amis comme ça finalement, et ils l'ont traité d'ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs. Donc on voit déjà ici à travers ces autres textes aussi bibliques quelques aspects des amis de Dieu. Avoir confiance, on a dit qu'Abraham, il a eu confiance en Dieu. Moïse, il parlait face à face avec Dieu. Les gens qui ont des paralytiques avaient la foi, voyant leur foi. C'est en lien avec ça qu'il lui a dit, mon ami. Et puis le dernier point, par rapport au fait qu'il était ami des pécheurs, il passait du temps avec les pécheurs, Jésus. Et puis, voilà, être ami, c'est aussi passer du temps avec les autres. Venons-en maintenant un peu au cœur du message de serviteur à ami. C'est le verset central pour comprendre cette amitié ici entre Jésus, c'est ce verset 15. « Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » On passe d'une relation ici de serviteur, et je m'imaginais le serviteur, il a tendance à obéir sans connaître son maître. Un maître qui engage son serviteur, le premier jour, il lui donnait un ordre, il ne connaît pas encore son maître, il obéit. À celle d'ami de Jésus. On devient ami de Jésus parce qu'on connaît Jésus. Respectivement ici, Jésus nous a fait connaître le Père, et c'est parce qu'on a cette connaissance de lui qu'on peut être appelé ami de Jésus. Est-ce que ça signifie, si on devient ami, qu'on ne doit plus obéir, hein, comme un serviteur? Est-ce finalement un ami, je fais comme je veux, ma relation, j'obéis plus? Mais non, je crois qu'au contraire, on est motivé à obéir car on connaît Jésus. Et si on le connaît, on sait aussi ce qu'il nous demande. C'est pas, s'il nous demande quelque chose, c'est par bienveillance, c'est pour notre bonheur, c'est parce qu'il sait qu'on en a besoin. Venons-en maintenant un peu à cette notion d'ami. Qu'est-ce qu'un ami? Alors j'aimerais aussi vous entendre, que ce ne soit pas toujours le monologue. Pour vous, c'est quoi un ami? Si vous pourriez dire, dites librement en quelques mots, si vous imaginez un de vos amis, ou aussi par rapport à Jésus, hein, aussi. Un ami, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il fait?
Sur qui on peut compter?
Sur qui on peut compter? Confident. Confident. Avec qui on partage. Tu vois ça, oui. On aime être avec. J'ai pas entendu.
Disponible.
Disponible.
Il est vrai.
Il partage souvent les mêmes valeurs. Autre chose. On peut être authentique. On estime déjà un peu le connaître, quoi. Donc on a une connaissance de lui ou autre. Ouais. Tu peux redire,
on va le...
qui aime dans la vérité, je le dis. Et qui dit la vérité dans l'amour. Avec amour. Voilà. Confiance. Ouais, vous avez tout, je crois qu'on a fait tout le, toute la... On a déjà dit pas mal, je pense qu'on peut encore aller... On peut aller plus en avant. Je réfléchis aussi un peu à moi, les amis, on peut aussi avoir des relations amicales un peu selon notre personnalité aussi, je ne sais pas comment vous étiez. Moi, j'ai plutôt toujours eu un peu plusieurs amis et pas forcément un ami exclusif avec qui on fait tout. Vous avez déjà vu des gens qui ont des un ami, puis ils font tout avec lui, c'est que le même, c'est un peu exclusif. Puis d'autres, ils ont plusieurs amis, donc on est aussi un peu peut-être différent dans nos amitiés. On peut avoir... qu'on a du plaisir à rencontrer. Ouais. On se sent libre dans la relation, ça a aussi été dit, que je me suis noté. Je pense on se sent libre d'être qui on est, j'ai envie de dire. Hein. D'être, on ne doit pas, alors pas du tout, je ne sais pas, mais en tout cas on doit moins paraître, on peut être vraiment avec aussi un ami. Et pourquoi vous pensez qu'on peut être avec un ami plus qu'avec quelqu'un d'autre? Moi, je me suis mis aussi, ouais, c'est vrai que tu l'as dit, on n'est pas jugé après aussi. Hein, c'est que finalement, des fois, on n'ose pas dire quelque chose parce qu'on a déjà le regard de l'autre qui pourrait nous dire, attends, tac, tac, on te juge, mais si t'es comme ça, etc. Donc, c'est un peu ce regard de l'autre qui nous fait finalement ne pas être tout à fait nous-mêmes. Et avec Jésus, est-ce que c'est la même chose? Alors, j'ai répondu oui et non. Ça, c'est la bonne réponse, oui et non. Hein, c'est un peu les... Je pense que oui, il a toutes les caractéristiques d'un ami, Jésus. Je dirais même que c'est un ami infaillible, toujours fidèle à nos côtés, hein, à ses promesses, il est fidèle. Toujours à nos côtés, on peut lui faire confiance, il ne nous abandonne pas. Il nous parle à même hauteur Dieu. même auteur Dieu. Vous avez vu ces gens, ils gardent comme ça quand ils vous parlent, mais c'est dans le cœur, hein, pas forcément dans la posture, mais même auteur Dieu, sans condescendance. Et je rappelle ici ce qu'on a lu avant avec Moïse. Hein, Moïse parlait avec Dieu, l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Et en même temps, aussi, il a connu notre état d'être humain, avec toutes les contraintes, les limites, les souffrances. Donc, c'est aussi un ami, finalement, qui compatit à ce qu'on vit. Ce qu'on peut vivre dans les amitiés, et parfois aussi des moments difficiles, parfois quand il y a des ruptures, des choses comme ça, eh bien, je pense que Jésus, il a aussi connu ça. Quand c'est des amis qui l'ont aussi abandonné à un moment donné. Des amis qui étaient proches de lui, et puis qu'à un moment donné, se sont éloignés. Donc, tout son côté humain, dans la relation d'amitié qu'on peut avoir en tant qu'humain, il l'a aussi vécu. Et d'un autre côté, je dirais non, car les exigences, en tout cas telles qu'elles sont décrites dans les versets qu'on vient de lire, mettent la barre de l'amitié très haute. Je relis ces trois versets. « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. » Verset 13. « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Et le verset 12, qui suit, mais il a dit deux fois dans ce paragraphe, « Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Et le verset 12, le premier dit, précise « Comme je vous ai aimé. » Donc Jésus a fait ce premier pas, il a donné sa vie pour nous, qui sommes ses amis, et il nous invite aussi à notre tour de donner notre vie, en particulier ici pour nos amis. Et puis Jésus nous dit qu'on est ses amis si on fait ce qu'il nous commande. Et puis dans ce texte, ce qu'il nous commande, c'est quoi? C'est de nous aimer les uns les autres. J'imaginais Jésus qui dit ça à ses disciples à ce moment-là. Il a marché avec eux, il a vécu avec eux à peu près 3 ans. Ils ont vu Jésus vivre, ils ont entendu ses enseignements, ils vivaient une relation amicale. Et là, avant de mourir, il leur dit ce que je paraphraserai comme ça, je me suis permis de paraphraser un peu ce que Jésus aurait pu dire. Je vous ai choisi comme mes amis. Vous avez pu voir comme j'étais avec vous, je vous ai aimé, j'ai tout donné pour vous. Maintenant, faites de même si vous voulez à votre tour être mes amis. Aimez-vous les uns les autres en allant jusqu'à donner votre vie pour vos amis. Donnez votre vie pour ses amis. On pourrait aussi prolonger, je ne vais pas entrer dans le détail ici, mais c'est quoi hein, donner sa vie pour ses amis? On pourra encore en parler tout à l'heure dans les petits groupes. C'est quoi? Je l'ai résumé à ma manière, c'est donner librement ce qui nous appartient. Aussi bien ce qui est matériel, on peut donner des cadeaux, on peut donner de l'argent, on peut donner des biens. Qui matériel, on peut donner du temps, de l'écoute. Tout ce qui n'est finalement pas mesurable, ou si on peut mesurer le temps quand même, mais ce qui n'est pas valorisable en argent ou en biens matériels, sans attendre quelque chose en retour. Ça, c'est ma définition, un peu donner sa vie, mais ça peut aussi aller, hein, ça peut aller jusqu'à donner sa vie dans notre, jusqu'à la donner pour notre vie, hein, jusqu'à la mort, ça peut aller. Et je pense ici à un exemple, parfois on peut s'engager aussi pour nos amis, jusqu'à être prêt à donner sa vie, aussi à prendre des risques pour sa vie. Et je pense ici au médecin Denis Mukwege, je prononce juste Mukwege. Vous connaissez le médecin, le gynécologue au Congo, qui répare les dames qui sont blessées, en fait qui sont violentées, et puis qui les répare dans les un truc, ouais, c'est horrible ce qui se passe, mais lui, il a pris... Et il dit que je fais ça, je répare, comme il dit, ces femmes hein, qui ont été violentées dans leurs organes intimes. Je le fais parce que c'est ma famille, c'est mes frères et sœurs, c'est mes amis. Et je prends des risques en faisant ça. Il prend des risques énormes. Aujourd'hui, il est accompagné de gardes hein, qui le suivent tout le temps. Parce qu'une fois, il est rentré et puis on l'a menacé, il a juste pu s'échapper. Et depuis là, il est entouré de gardes. Parce qu'il touche à quelque chose ici, ben il entre dans quelque chose de très dangereux. Et je vois ici un exemple assez extrême, on peut être prêt à donner sa vie, et je pense que lui, il est prêt à donner sa vie ici, pour que ces personnes, ces femmes, retrouvent une dignité dans ce pays. Un dernier point que je vois dans ce passage, c'est l'importance du Saint-Esprit. Le texte, avant et après, nous parle du Saint-Esprit. Dans le chapitre 14, à partir du verset 15, nous lisons un texte dans lequel Jésus promet l'envoi du Saint-Esprit, du Consolateur, on en a parlé avec Jean-Marc, où on parle aussi des fois du Défenseur, de celui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et juste dans le passage qui suit, à partir du verset 18 du chapitre 15, Jésus nous parle de l'œuvre du Saint-Esprit, de l'œuvre de Défenseur-Consolateur qui rendra témoignage de Jésus. Je ne pense pas que ce soit un hasard de l'édition, mais ça signifie que pour moi que nous avons besoin du Saint-Esprit pour devenir à notre tour des amis de Jésus. Seul, on en est juste incapable. Quelques mots de conclusion. L'amitié de Dieu, qui nous choisit aussi comme ses amis, implique de notre part une réponse. Et cette réponse est de le suivre, lui seul, sans compromis, de le suivre et de faire ce qu'il nous demande. Et une des choses qu'il nous demande, comme on l'a vu ce matin, donc, c'est de nous aimer les uns les autres. C'est une tâche bien trop grande, même impossible. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et comme ce texte du CPD Sarment est entouré de textes de l'œuvre du Saint-Esprit, nous ne pouvons répondre à cette exigence radicale et à ce commandement de Jésus qu'en laissant le Saint-Esprit nous toucher, nous influencer, nous rendre de plus en plus aimants finalement, nous rendre capables de répondre au commandement de Jésus. Seul, on pense surtout à soi. On pense à ses besoins, on pense à soi. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas penser à soi, au contraire. Aime ton prochain comme toi-même, donc il faut aussi penser à soi. Mais il ne faut pas penser qu'à soi. Voilà. On a tendance un peu à garder ce qu'on a, que pour soi. J'ai parlé avant de ce qu'on peut partager, donner, mais c'est aussi nos dons. Les dons qu'on a reçus, les partager. Et les dons dans différents domaines, artistiques, mais aussi voilà, des capacités qu'on a de donner. On donne déjà beaucoup professionnellement. On donne déjà beaucoup, mais aussi donner pour nos amis. Alors peut-être que vous avez des amis dans votre boulot. Ça peut arriver, c'est des fois plus rare, mais on peut aussi avoir cette relation d'amitié au travail, mais c'est souvent nos amis sont extérieurs au travail. Et puis un deuxième point, une relation d'amitié, elle a besoin d'une réciprocité. On dit qu'on ne peut pas être ami s'il y en a toujours un qui fait le pas, et puis l'autre, je ne sais pas si vous avez déjà vécu des amitiés, ça démarre, et puis après, à bout de certains temps, c'est toujours vous qui faites l'effort pour rester ami. L'autre, il ne fait plus d'effort, mais à un moment donné, ces types d'amitié peuvent s'arrêter, peut-être même, en tout cas, être fragilisé, voire s'arrêter. Et l'amitié entre Dieu et nous est aussi à deux sens. Sachant que, dans le sens Dieu vers nous, l'amitié est parfaite. Il a le don de Jésus, sa fidélité, son amour, sa grâce, sa part de l'amitié, elle est faite. Et dans l'autre sens, nous vers Dieu, l'amitié signifie, comme on l'a lu, un don de soi envers Dieu, qui nous demande de nous aimer les uns les autres. Et cette amitié entre Dieu et ses enfants n'est pas une amitié égoïste ou exclusive, mais c'est intéressant, je trouve. Dieu nous parle ici de son amitié avec lui, mais directement, elle est en relation avec l'amour que nous avons les uns pour les autres. C'est comme si on peut faire peut-être une amitié avec Dieu un peu exclusive. J'ai Dieu, mon ami, j'y parle, il me parle, on est dans une bonne relation, tout va bien. Mais il dit, vous êtes mes amis, ok, alors aimez-vous les uns les autres. Il y a tout de suite le lien vers les autres, vers l'extérieur. Et ce n'est pas une spiritualité personnelle. Alors oui, la relation personnelle, mais notre relation personnelle trouve son sens dans notre amitié ici avec Dieu que si on partage l'amour entre nous, entre amis. Et j'aimerais terminer ici mon message pour le compléter et aussi pour le terminer. Je vous invite à écouter dans une attitude aussi de prière. Pas chanter avec, mais juste écouter. Je n'ai pas exprès pas affiché les paroles, mais plutôt une attitude de prière. Le chant qui nous dit « Quel ami fidèle et tendre », un chant qui est interprété par le groupe Héritage. On va voir si ça démarre.